En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Tous les Chinois ne vivent pas en Chine, ni tous les Indiens en Inde, puisque, on le sait, les diasporas de ces deux peuples sont réparties dans le monde entier. Quels sont les points identiques et les différences entre les diasporas chinoises et indiennes ? Tel est le propos de Thierry Sanjuan, professeur à l'Université Paris 1, dans la communication qu'il a donnée le lundi 1er octobre 2012 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassit-Bruguière, qui présente, en le résumant, le parcours de Thierry Sanjuan.
Nous passons au sujet de cette séance, les diasporas indiennes et chinoises. Et je dois vous dire que ce sujet, à tout seigneur, tout honneur, m'a été suggéré par notre vice-président, M. Bertrand Collomb. Il est important, en effet, en dehors des pays ou des grandes régions que nous avons envisagées jusqu'à présent, d'examiner ces colonies d'expatriés constituées comme une nébuleuse et par des processus divers et qui jouent dans le monde des rôles tout à fait spéciaux. Pour traiter ce sujet, il n'était pas si facile de trouver un orateur et j'ai fait appel à M. Thierry Sanjuan, qui, en parfait communicant, vous a envoyé à temps à la fois le résumé de sa communication et un abrégé de son curriculum vitae qui était joint à votre convocation. Donc, vous savez déjà tout sur lui. Mais je voudrais ajouter quelques mots. Je connais M. Sanjuan depuis fort longtemps, quand il est venu m'expliquer les problèmes qu'il rencontrait à l'École normale supérieure. Avant que moi-même je n'y sois directeur adjoint, il ne savait pas du tout que j'avais été pressentie à cet égard, pour m'expliquer les difficultés qu'il avait à continuer des études dans le domaine chinois en même temps de la géographie et toutes les questions mal résolues de l'établissement. Et cela m'a engagée, je dois dire, à accepter l'offre qu'on m'avait faite et m'a beaucoup aidée aussi à gouverner cette école. Mais M. Sanjuan a fait une très brillante carrière, à la fois de sinologue et de géographe. Il est actuellement titulaire de la chaire de géographie de l'Asie méridionale et orientale à l'Université de Paris 1. Il s'est intéressé à la fois à la géographie économique et régionale de la Chine, à sa géographie urbaine et sociale, étudiant notamment ses réseaux urbains, la modernisation fonctionnelle et paysagère de ses villes. Il a examiné aussi la géographie humaine, la géographie politique du monde chinois et de l'Asie orientale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment d'un dictionnaire de la Chine contemporaine qui a reçu un prix de notre académie. Il a écrit un ouvrage important sur le delta de la rivière des Perles, un ouvrage très intéressant sur les grands hôtels en Asie, en montrant comment ces établissements jouent un rôle dans le remodèlement de l'Asie actuelle. Il dirige une collection intitulée Mégapole, dans laquelle il a publié lui-même un très bon atlas de Shanghai. Je sais que pour la communication qu'il présente aujourd'hui, il s'est spécialement investi pour examiner l'histoire de la diaspora indienne qui était moins dans son registre d'études que la diaspora chinoise qu'il connaît bien. Et je suis certaine que ces lumières nous seront très précieuses. Monsieur Sanjuan, nous vous écoutons. Et nous vous remercions aussi de nous avoir fourni toutes sortes de cartes tout à fait uniques, inédites. Gardez-les parce que ça ne se trouve nulle part, les cartes de M. Sanjuan qu'il vous a distribuées aujourd'hui. Allez-y.
Merci beaucoup. Je souhaiterais déjà vous remercier de l'honneur que vous me faites de pouvoir parler des diasporas chinoises et indiennes aujourd'hui et remercier tout particulièrement Mme Bassit-Bruguière qui m'a toujours soutenu dans mes projets. La question des diasporas chinoises et indiennes se pose aujourd'hui non pas simplement parce que ce sont des diasporas, donc des populations distribuées à peu près partout dans le monde, pour celles-ci dans quasiment tous les pays du monde, mais leur question se pose parce que leur pays de référence, leur pays de départ, sont des pays émergents qui bousculent les équilibres économiques, géopolitiques mondiaux. Ces diasporas qui sont pour la diaspora chinoise entre 35 et 40 millions d'individus, pour la diaspora indienne, une vingtaine de millions. Ce sont des populations qui portent en fait une culture originaire des deux grands foyers de civilisation de l'Asie méridionale et orientale. Et ce sont des diasporas qui ont connu des strates de migration souvent similaires, parallèles, parfois communes. Ce qui les distingue, me semble-t-il, fondamentalement, c'est deux points. Le premier point, c'est le rôle des États de départ par rapport à ces diasporas, la stratégie qu'ont mise en place l'Union indienne ou la Chine par rapport à ces diasporas. L'une, la Chine, a toujours revendiqué son lien avec la diaspora chinoise et l'a instrumentalisé. L'Union indienne a, pendant relativement longtemps, coupé le lien avec sa diaspora propre et ne l'a redécouverte finalement qu'il n'y a qu'une vingtaine d'années. Le deuxième point, qui est également très important, ce sont les inscriptions politico-territoriales de la diaspora. Alors, nous le verrons, il y a des diasporas emboîtées, notamment pour la diaspora chinoise, et Hong Kong, Macao, Taïwan, ce n'est pas aux yeux de la Chine la diaspora, et c'est bien pourtant des Chinois de l'extérieur, hors de Chine, même quand ils relèvent de régions d'administration spéciale comme Hong Kong et Macao depuis respectivement 1997 et 1999, ils restent hors du jeu continental, et ce sont des territoires, donc des populations, qui n'ont pas connu les bouleversements, voire les traumatismes de la Chine continentale depuis les années 1950, et ce sont des territoires qui jouent ainsi le rôle de sas, de communication entre la Chine et le reste du monde, ce qui a permis à la Chine d'émerger. Les investissements vers les pays de référence depuis ces diasporas, le retour des jeunes diplômés sont autant d'atouts que les deux pays veulent aujourd'hui valoriser. Les entreprises chinoises à l'étranger joue également de l'emploi de Chinois d'outre-mer pour acquérir des savoir-faire, pour connaître les logiques des pays dans lesquels elles veulent s'investir. Et puis, il y a des itinéraires différents d'hommes aussi qui comptent dans la diaspora. Nous pourrons citer les cas chinois de Henry Fok ou de Li Ka-shing parce qu'ils sont très opposés en termes de configuration, mais il y a d'autres millionnaires, tycoons, dont on pourrait parler. En fait, la réflexion m'a amené à me poser cette question. Est-ce que les diasporas chinoises et indiennes sont des atouts, voire de simples atouts, voire des instruments de l'émergence chinoise et indienne, ou bien en sont-elles des partenaires de puissance? Pour cela, je pense qu'il est important de faire dans un premier temps, de rappeler l'itinéraire historique, les trajectoires de ces diasporas, puis leur répartition géographique. Dans un deuxième temps, de se poser donc la question fondamentale, à mon sens, du rôle des États, de la stratégie des États d'origine par rapport à leur diaspora. Et dans un troisième temps, en retour, du comportement de ces diasporas par rapport aux pays de référence et comment elles les accompagnent dans leur stratégie de puissance économique et géopolitique. Dans un premier temps, des trajectoires historiques qui sont certainement comparables, des trajectoires avec des temporalités comparables, avec le plus souvent des raisons comparables, à savoir des migrations économiques. Si nous prenons l'exemple de la Chine, les différentes strates sont tout d'abord des migrations économiques qui viennent de Chine du Sud, d'un foyer de départ très privilégié que sont les provinces du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang, à savoir les provinces littorales du sud de la Chine. Par là même, ce sont déjà des provinces marginales, celles qui ne parlent pas le mandarin, celles qui ne sont pas soumises directement au pouvoir de Pékin, celles qui ne sont même plus le sud, puisque quand on est à Pékin et qu'on dit qu'on va dans le sud, on dit dans les faits que l'on va à Shanghai. Donc ces foyers de départ, le Guangdong, le Fujian et dans une certaine manière le Zhejiang, connaissent des flux de migration vers l'Asie du Sud-Est essentiellement depuis la dynastie des Song, 960-1279, ce qui va permettre à cette Chine littorale du Sud, déjà depuis plus de 1000 ans, d'avoir des liens économiques, des liens humains, des liens commerçants avec toute l'Asie du Sud-Est, qu'elle soit continentale ou qu'elle soit insulaire. Deuxième grande vague, d'où est originaire en nombre la plupart de la diaspora chinoise aujourd'hui, ce sont bien évidemment les migrations des travailleurs sous contrat vers les pays neufs des colonies européennes. Ce sont les coulis, en fait, qui doivent remplacer les esclaves. C'est en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans les Antilles, ou bien évidemment en Amérique du Nord. Troisième vague, ce sont les migrations vers les pays industrialisés. Lors de la Première Guerre mondiale, beaucoup de Chinois sont venus, 140 000 en fait, sont venus notamment en France pour travailler dans les usines, dans les entrepôts, à l'arrière du front. Des populations sont également venues en Europe, comme les populations de Wenzhou, au sud de Shanghai, dans la province du Zhejiang, qui se sont implantées à Paris et qui sont aujourd'hui, je dirais, la population chinoise la plus visible au niveau du Sentier, de la rue Bafroy, du boulevard Voltaire, de Belleville. Nous avons eu aussi des migrations provoquées par l'arrivée au pouvoir du régime communiste dans les années 1940 et les années 1950, ce qui a profité essentiellement à Hong Kong et à Taïwan. Puis, dans les années 1980, avec une réouverture de la Chine, il y a eu de nouvelles immigrations depuis les foyers traditionnels du sud de la Chine. Dans les années 1990, de nouvelles migrations, mais alors de tout ailleurs, puisque c'est plutôt dans la région du nord-est chinois, avec la réforme des entreprises d'État. Et aujourd'hui, nous avons des migrations qui ne sont pas la diaspora, mais qui participent du fait chinois, de la présence chinoise aujourd'hui et probablement pour durer d'ailleurs dans les pays d'accueil, à savoir les migrations d'étudiants chinois à l'étranger, dont le nombre a considérablement augmenté depuis le milieu des années 1990. Ce qui fait que, au total, entre 35 et 45 millions de Chinois, non pas d'outre-mer, mais de Chinois outre-mer, puisque une vingtaine de millions, parmi ces 35-40 millions, sont des Chinois de nationalité chinoise, citoyens de la République populaire de Chine. Leur répartition, au total, de cette diaspora élargie, de ces Chinois d'outre-mer, nous pouvons reprendre les catégories de la République elle-même, de la République populaire elle-même, à savoir tout d'abord les compatriotes. Les Chinois de Hong Kong, les compatriotes en chinois on dit Tongbao, à savoir ceux qui sont du même ventre. Les populations qui sont à Hong Kong, qui sont à Macao, deux régions d'administration spéciale aujourd'hui, et les populations qui sont à Taïwan. Nous avons un deuxième type de Chinois, les Chinois, les Huaqiao, les Chinois, là pour le coup, d'outre-mer, ceux dont les parents, les grands-parents, peut-être les arrière-grands-parents sont venus de Chine, mais qui pendant longtemps finalement ont estimé qu'ils n'avaient plus rien à voir avec la Chine, ce pays pauvre, ce pays martyrisé, ce pays fermé qu'était la Chine dans les années 50, 60, 70. Et nous avons le pôle de Singapour, nous avons des populations chinoises du simple petit commerçant à l'élite économique des pays d'Asie du Sud-Est. Nous avons bien évidemment les descendants des travailleurs sous contrat dans les pays neufs. Nous avons les populations chinoises des Chinatowns dans les métropoles occidentales, mais qui, eux, ont une cynité, je dirais, vagabonde. Ceux-là sont les enfants ou petits-enfants des populations qui étaient en péninsule indochinoise depuis le début du XXe siècle. Et aujourd'hui, un troisième type de présence chinoise dans le monde, une implantation contemporaine ou le renforcement d'une présence chinoise en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Nous retrouvons une bonne part de ces mêmes strates d'émigration en Inde, avec des migrations traditionnelles de marchands indiens vers l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, les côtes orientales de l'Afrique, avec, dans une deuxième phase, les migrations de travailleurs sous contrat, touchant essentiellement le littoral oriental de l'Inde, d'ailleurs, vers les colonies européennes. Cela a touché beaucoup l'île de Maurice, la Guyane britannique, la Malaisie occidentale. Des migrations liées à l'Empire britannique, bien sûr. Ce sont les soldats ou les policiers dans les colonies britanniques. Les marchands qui venaient essentiellement du Gujarat, accompagnant les flux de travailleurs sous contrat. Ou ça peut être également des Indiens qui étaient fonctionnaires de la République française en péninsule indochinoise, et qui sont, quand il y a eu décolonisation, qui sont venus en France. Nous avons aussi les migrations de ce que l'on appelle les deux fois déplacés, ces populations qui étaient dans les pays africains, les anciennes colonies britanniques, qui, lors de la décolonisation, ont dû fuir ces pays africains. 1967, le Kenya. 1972, l'Ouganda. Et qui ont été deux fois déplacés dans la mesure où l'Inde a refusé de les accueillir et que ces populations indiennes se sont tournées vers le Royaume-Uni, puis vers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Nous avons un autre type de migration encore, qui est celui des migrations économiques avec vers les pays producteurs de pétrole au Moyen-Orient, essentiellement des musulmans du Kerala, en l'occurrence, dans les années 1970 et 80. Et puis, ce qui compte peut-être encore plus, ce sont les migrations depuis les années 1990, notamment, pour des emplois qualifiés, universitaires, scientifiques, ingénieurs, gestionnaires, des migrations pour études également vers les pays occidentaux et essentiellement vers les États-Unis. Nous avons ici 20 millions de personnes ethniquement indiennes hors de l'Inde, dans le monde, essentiellement dans les anciennes colonies britanniques, également en péninsule arabique et de plus en plus nombreuses en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Au total, les diasporas chinoises et indiennes, ce sont des populations, me semble-t-il, si l'on veut une formule, qui s'intègrent et qui ne s'assimilent pas. Elles s'intègrent dans les villes, dans le secteur des services, elles s'intègrent par le travail, elles s'intègrent aussi par le travail. Les populations indiennes ont cette facilité, à la différence de la population chinoise, de parler l'anglais. Donc l'intégration au pays d'accueil se pose sans problème. Et ce sont des diasporas également, me semble-t-il, qui n'entretiennent pas les mêmes rapports avec les pays d'accueil, des rapports colonisés, colonisateurs, pays en développement, pays développés, que d'autres populations immigrées dans les pays d'accueil. Ce sont des populations, finalement, je dirais, qui ne gênent pas et qui travaillent, qui s'intègrent, mais qui gardent leur culture propre, leur réseau, ce qui n'empêche pas que par moment, elles soient des boucs émissaires lors des phases de décolonisation. J'ai parlé de la péninsule indochinoise pour les Chinois, les boat people de la fin des années 70, du Kenya, de l'Ouganda pour les populations indiennes, ou lors de crises économiques ou politiques graves, comme en Indonésie en 1965 ou plus récemment en 1998. Quel est donc le rôle des États d'origine envers leur diaspora? La construction des nationalismes modernes, chinois comme indiens, s'est respectivement appuyée sur des figures venant ou revenant des pays d'outre-mer. On peut parler du père du nationalisme indien, Gandhi, qui a séjourné pendant plus de 20 ans en Afrique du Sud. On peut parler également de Sun Yat-sen, père de la Chine républicaine, qui est un Chinois d'outre-mer, en fait, et qui s'est appuyé sur des réseaux d'outre-mer pour abattre la dynastie mandchoue régnante. Point également commun de ces deux diasporas, une opposition historique des pays d'origine à l'émigration. En Chine, l'émigration est perçue comme un manque de respect filial vis-à-vis des ancêtres familiaux, vis-à-vis de l'empereur, et l'émigration était punie théoriquement par la peine de mort en Chine jusqu'en 1893. D'où une marginalisation des migrations, des foyers de migration et des foyers de contact avec l'étranger. La différence forte, me semble-t-il, entre Chine et Inde au regard de leurs diasporas respectives, c'est que la Chine est un État unique, uni, centralisateur, alors qu'en Inde, c'était initialement des États princiers. L'État chinois a historiquement un projet d'universalité politique et culturelle. Il mène constamment une politique d'unification des Chinois au-delà des différences régionales en interne et au-delà des différences en externe, unification des communautés outre-mer. En cela, il utilise une notion tout au long du XXe siècle, celle de patriotisme, aiguozhui, pour rappeler les Chinois de l'extérieur à leur devoir vis-à-vis du pays de référence. Cet appel au patriotisme, c'est un appel constant à l'aide des Chinois d'outre-mer, ou qui n'a finalement jamais été véritablement interrompu, sauf peut-être dans les années les plus difficiles de la révolution culturelle. Sous la République, on fait appel à la diaspora chinoise. Sous le régime communiste, dès la fin des années 40 et au début des années 1950, on fait appel à des entrepreneurs chinois d'outre-mer pour qu'ils reviennent. Beaucoup de populations chinoises sont revenues, alors que parfois elles n'étaient pas nées en Chine pour pouvoir construire la Chine nouvelle. Symboliquement, Le CPCC, le Comité consultatif du peuple chinois, représente l'ensemble du peuple chinois. C'est un organisme d'État qui représente le peuple chinois au-delà des strictes frontières de la République populaire de Chine. Et puis, et c'est cela peut-être le plus important, dès la fin des années 1970, avec l'ouverture de la Chine, la décentralisation administrative à des échelles très locales des décisions en matière économique, il y a eu des appels locaux aux Chinois de l'extérieur, et notamment depuis les lieux dont ces populations d'outre-mer étaient originaires, ce qui a fait le succès des foyers de migration de départ, que sont le Guangdong, le Fujian et le Zhejiang. Il y a eu multiplication des commissions locales de liens avec les compatriotes, entre guillemets, et avec les Chinois d'outre-mer, multiplication des zones franches, des partenariats économiques, accueil des investissements directs étrangers de la part de ces populations. Et cela a joué un rôle tout à fait fondamental dans le développement notamment de la Chine du Sud dans les années 1980. Au niveau du delta de la rivière des Perles, avec les investisseurs hongkongais qui délocalisaient leurs unités de production dans la région cantonaise, ou des investissements de Chinois d'outre-mer, qu'il s'agisse d'entrepreneurs de Malaisie, de Thaïlande, d'Indonésie ou d'ailleurs, qui passaient par Hong Kong pour délocaliser leurs industries, qu'il s'agisse également du sud du Fujian, avec la zone économique spéciale de Xiamen, en lien étroit avec Taïwan, ou qu'il s'agisse, dans les années 1990, d'une présence importante des Chinois compatriotes ou d'outre-mer, à Shanghai notamment, il y a une très forte communauté hongkongaise et taïwanaise à Shanghai. Il y a même une zone économique importante près de Shanghai qui s'appelle Kunshan, que l'on surnomme Taiwan City, et une présence très forte des Taïwanais jusqu'à l'intérieur, au fond du bassin du Yangtze, avec la ville de Chongqing. Parallèlement, réactivation des migrations des flux de marchandises depuis la région de Wenzhou, ce sont les marchands de vêtements, en gros, que l'on connaît à Paris ou à Aubervilliers. Enfin, une politique d'encouragement au retour des jeunes diplômés à l'étranger, avec création de zones d'accueil dans des campus, liant recherche et développement pour les Chinois nationaux et ceux d'outre-mer qui reviennent au pays. Toute cette tradition de lien avec la diaspora qu'a la Chine, l'Inde ne l'a pas. Elle n'a pas ce paternalisme d'État d'outre-mer. Avec la création de l'Union indienne, la stratégie de Nehru, puis de sa fille, a été de consolider l'unité nationale, d'entretenir de bonnes relations avec leurs voisins et les États du tiers-monde, et par là même, Nehru a encouragé les populations indiennes outre-mer à s'intégrer au pays d'accueil. D'où le refus de l'Union indienne d'accueillir des populations indiennes, d'origine indienne, quand elles étaient menacées par les politiques postcoloniales en Afrique, au Kenya, en Ouganda ou ailleurs. L'Union indienne va se rendre compte de l'intérêt de sa diaspora à travers les transferts de fonds des ouvriers indiens qui sont au Moyen-Orient. C'est au début, à fin des années 70, début des années 80, qu'ils vont comprendre qu'il y a une aubaine économique et qu'il va falloir reconnaître et définir, même non pas simplement la reconnaître, mais définir ce qu'est la diaspora indienne. Je pense qu'il y a trois dates clés pour cela. 1984, 1991 et 2003. 1984, tout d'abord, la politique de Rajiv Gandhi, qui reconnaît l'importance de la diaspora indienne dans un contexte, je le rappelle, de retour de fonds importants depuis les migrants au Moyen-Orient. 1991, réforme, ouverture de l'économie indienne, libéralisation, et nous allons avoir 10 ans de réformes en faveur de la diaspora indienne. Création d'une haute commission à la diaspora indienne, création de deux catégories pour identifier qui relève de l'identité indienne, les INR, donc les Indiens non-résidents, et les POI, les populations d'origine indienne. Le gouvernement indien autorise la création de comptes bancaires pour les non-résidents en Inde, comptes bancaires en roupies ou comptes bancaires en devises. Il préfère d'ailleurs les mettre surtout en devises, les garder en devises, plutôt que de les transformer en roupies. Création d'organismes d'État pour l'insertion des Indiens revenus au pays, avec en parallèle des associations qui aident à ce que des Indiens médecins reviennent, des pharmaciens. Création d'une carte pour les populations d'origine indienne, donc qui sont de nationalité étrangère, mais qui en 1998 obtiennent une carte permettant de voyager en Inde sans visa. Et en 2001, le premier ministre indien inaugure la 6e convention de la GOPIO à New Delhi, la Global Organization of People of Indian Origin. Dernière date clé, me semble-t-il, 2003, où le gouvernement indien crée une journée des Indiens d'outre-mer. Alors, excusez-moi, je dois mal le prononcer, mais je ne suis pas spécialiste de l'Inde. Pravasi Bharatiya Divas, c'est le nom de la journée des Indiens d'outre-mer, qui invite donc des populations d'origine indienne, comme des écrivains comme Naipaul, qui valorisent l'identité indienne et qui, bien évidemment, organisent des forums d'entrepreneurs indiens. À cette même date, on annonce également la possibilité d'une double nationalité, à savoir que les POI, les populations d'origine indienne, ont le droit à obtenir de nouveau une nationalité indienne. 2004, l'année suivante, création d'un ministère des Affaires indiennes d'outre-mer. Par là même, en retour, quel est le comportement, et ce sera mon troisième et dernier grand point, quel est le comportement des diasporas par rapport aux stratégies des États? Alors déjà, on peut dire qu'il y a des comportements très différents. Si l'on compare deux figures éminentes de la diaspora chinoise, Henry Fock, qui est mort il y a à peine quelques années, et Li Ka-shing, nous avons deux stratégies d'hommes très différentes. Ce sont tous deux des Chinois nés en Chine continentale. Henry Fock, né dans la région cantonaise. Li Ka-shing, né à l'est du Guangdong. Ce sont des self-made men qui se sont faits tout seuls à Hong Kong. Henry Fock, lui, est dans le commerce dans un premier temps. Il est dans l'immobilier. Il est un peu présent partout. Et puis surtout, c'est un allié très fort et de très longue date du gouvernement communiste chinois qui l'a aidé pendant la guerre de Corée. C'est également Henry Fock, c'est quelqu'un qui est originaire d'un lieu au centre de la région cantonaise, du delta de la rivière des Perles. Il obtient une concession des communistes de créer une concession, reconstitue une concession à son nom pour qu'il puisse créer une nouvelle ville qu'il bâtit lui-même. Il est présent dans l'immobilier, il est présent dans l'industrie, il est présent dans l'hôtellerie, il est président de l'association de football, ce qui n'est pas peu de choses, à Hong Kong et en Chine, et il est surtout vice-président de la CPCC, donc du Comité consultatif du peuple chinois, ce qui fait qu'il a accès directement, comme officiel, aux plus hauts dirigeants de Pékin. Li Ka-shing, c'est un itinéraire tout à fait différent. C'est quelqu'un qui a commencé donc également de manière très modeste. Il a été le roi de la fleur artificielle à Hong Kong. Puis après, il a été dans l'immobilier, notamment à Tsim Sha Tsui, au centre de Hong Kong. Et puis, il a investi dans les ports. On sait qu'il est présent dans les ports à Rotterdam. On sait qu'il a acheté Marionneau. On sait qu'il est présent partout le long de la côte chinoise. Mais lui, c'est un homme d'affaires, pour le coup. Lui n'a pas de reconnaissance officielle par la Chine. C'est un partenaire économique. Et nous pourrions citer d'autres cas également chinois ou indiens. Un autre type de comportement, ça peut être également les accords d'État à État. La création de la zone industrielle sino-singapourienne de Suzhou en 1994, où Singapour et la Chine ont créé une zone qui devait accueillir et qui a accueilli des capitaux états-uniens, européens, taïwanais, japonais. Ce qui est le plus important, c'est que dans ces diasporas chinoises et indiennes, il y a eu progressivement une formalisation de ces communautés à l'étranger pour se défendre en interne dans leur pays d'accueil. Et ce sont ces communautés qui, par les institutions qu'elles ont créées à l'étranger, sont devenues des interlocuteurs pour leur état de référence. La population d'origine indienne en Amérique du Nord participe, pour partie, hein, l'élite économique est qualifiée des États-Unis ou du Canada, beaucoup de médecins, de scientifiques, 36% des employés de la NASA sont d'origine indienne, 36% de ceux de Microsoft, 28% de ceux d'IBM. Le revenu moyen des Indiens au Canada est supérieur de 20% à la moyenne nationale. Dans le secteur des technologies de l'information, plusieurs diplômés indiens sont devenus d'importants chefs d'entreprise de la Silicon Valley. 7% des entreprises technologiques au tournant du siècle étaient dirigées par des Indiens. Et c'est également dans la Silicon Valley, dès 1992, qu'un réseau d'entrepreneurs indiens ont créé The Indus Entrepreneurs, TIE, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs et de professionnels avec en 2006 plus de 6000 membres dans le monde, une quarantaine de branches économiques dans le monde entier, et souvent ce sont des hommes qui ont été des ingénieurs indiens installés dans la Silicon Valley, qui ensuite sont devenus des chefs d'entreprise ou des cadres supérieurs et qui aujourd'hui investissent en Inde proprement dit. Nous avons aussi des partenariats signés en 2004 entre 15 associations et chambres de commerce de la diaspora qui touchent les Antilles, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est. Et puis, nous avons des associations plus locales, Action India, comme l'association créée par des Indiens résidant à Chicago, où nous avons une association pour les Indiens revenant au pays et qui siège à Bangalore. Au total, la diaspora indienne est le premier investisseur en Inde aujourd'hui, 23 milliards de dollars en 2005. Et il faut apprécier aussi la redécouverte par ces diasporas de leur identité respective. Prenons le cas de la diaspora chinoise il y a 20 ans. Prenons le cas même précis de ces Chinois qui sont à Paris, dans le 13e arrondissement, il y a une vingtaine d'années. Leurs parents ont fui la péninsule chinoise. Ce sont leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents qui sont venus de Chine. Ils n'ont plus rien à voir avec la Chine et ils ne parlent pas le mandarin. La Chine, c'est une sorte de trou noir qui ne peut pas faire pays référence. 20 ans plus tard, c'est l'inverse. Leurs parents leur disent « Allez à l'INALCO ou à l'Institut Confucius apprendre le mandarin parce que votre identité, c'est une chance pour vous. » Donc nous sommes dans une logique des redécouvertes voulues ou forcées. Pour beaucoup, je pense également un peu forcées. Ils naissent chinois, ils deviennent chinois. On leur rappelle redécouverte de leurs racines, voyage dans les pays d'origine, développement éventuel de liens économiques avec le pays de départ. La Chine, c'est, mon fils, ma fille, une chance pour toi pour trouver un emploi, pour faire des affaires. Comme on dit maintenant, c'est une opportunité, mais excusez-moi, je n'utiliserai pas ce mot, je dirais que c'est une occasion. Et nous avons aussi des populations qui, aujourd'hui, sont traversées par les moyens de communication. À savoir qu'aujourd'hui, le chinois qui est de Wenzhou, qui parle Wenzhou, qui est de Canton, qui parle cantonais, qui est de Chaozhou, qui parle Teochew, qui est Hakka, qui parle Hakka, eh bien maintenant, il va falloir qu'il apprenne le mandarin parce qu'il écoute CCTV sur le câble. Les Indiens, eux, écoutent ZTV, alors je ne sais pas si c'est ZEETV, ça s'écrit ZEETV. On écoutait la radio, lire la presse, ça peut être également, bien évidemment, le cinéma. Ils vont aussi voir des films. La littérature, diffusion aussi d'une langue unitaire pour la diaspora chinoise. Hier, c'était le cantonais, aujourd'hui, c'est le mandarin de plus en plus. Pour la diaspora indienne, c'est l'hindi. Donc là, nous avons des populations souvent étrangères à leur pays d'origine qui s'approprient dorénavant un référencement national. Alors, la politique, et ça sera pratiquement mon dernier point, les politiques des États de référence vis-à-vis des diasporas aujourd'hui, la Chine notamment. Eh bien, la République populaire de Chine, Pékin, a gagné depuis une quinzaine d'années. Autant il y a 20 ans, on pouvait dire, tiens, c'est ou Taïwan, ou c'est Pékin, ou c'est personne. Finalement, c'était d'une façon de dire que c'était personne, qu'on était d'une diaspora autonome, indépendante, avec ses traditions, avec son dialecte régional. Aujourd'hui, l'émergence de la Chine donne identité à ces populations. Il y a une politique active de Pékin en termes de médias, je l'ai dit, mais aussi en termes de services, de banques, de commerce, diffusion de la culture chinoise qui nous concerne, nous, mais qui concerne aussi ces populations d'origine chinoise à travers, notamment, bien sûr, les instituts Confucius, mais il y a bien d'autres cas. Il y a un développement aussi par la Chine d'une politique, je dirais, paternaliste vis-à-vis des communautés chinoises de l'extérieur. En 1965, après le coup d'État communiste en Indonésie, les Chinois étaient massacrés dans la rue. La Chine officiellement disait que c'était pas bien. Mais elle n'allait pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est un argument de puissance. On touche aux miens. Donc, d'une certaine manière, ils sont relais de puissance, même parfois dans leur faiblesse. Et puis, dernier point, les stratégies des entreprises chinoises à l'étranger. Les grands groupes chinois ont tendance à recruter à l'étranger, dans un premier temps, des Chinois d'outre-mer. parce qu'on a des choses en commun. Et c'est à travers les Chinois d'outre-mer qu'ils vont pouvoir apprendre les modalités de fonctionnement du pays dans lequel ils veulent s'implanter. Et ils vont pouvoir ainsi apprendre comment négocier, quels sont les partenaires, quoi faire, quels sont les marchés, comment se comporter. Et puis ils vont rapatrier, ou en termes, excusez-moi, beaucoup plus techniques, en termes légaux, économiques, bien évidemment. Et puis ils vont rapatrier ces savoir-faire en Chine pour les grands groupes, pour moderniser et les grands groupes chinois et négocier avec les entreprises étrangères qui sont présentes en Chine. Ce qui fait que, en conclusion, parler des diasporas chinoises et indiennes, c'est s'interroger, bien évidemment, pas simplement sur des populations outre-mer, c'est s'interroger sur la globalisation, sur ces nouveaux équilibres, sur l'émergence de ces grandes puissances que sont la Chine et l'Inde, et comment elles instrumentalisent, comment elles utilisent, comment elles peuvent s'appuyer sur des relais, des partenaires qui, hier, étaient, pour l'Inde, ignorés, pour la Chine, séparés, et comment, aujourd'hui, il y a une recomposition des mondes chinois et indiens, mais qui n'est plus une recomposition du pays-continent, la Chine, ou du subcontinent indien, mais qui est une recomposition des mondes chinois et indiens à l'échelle du monde. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le géographe sinologue Thierry Sanjuan. Le texte de sa communication sera disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bassit-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement en libre accès permanent.